Est du son dans la diffusion. Donc, si vous pouvez, peut-être vraiment qu'il s'il y en a pas, c'est parce qu'ils peuvent pas m'entendre. Mais là, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. Il y en aurait au moins 9 personnes, je crois, qui seraient là. Donc, si une de ces personnes peut faire un petit signe comme quoi le son est bon. Ce serait apprécié. C'est bon? Donc, on me dit que le son est bon. Donc, nous allons débuter en ce cas-là. OK. Alors, bonsoir, bienvenue à cette étude sur le service, servir Dieu en temps de défi. Premier mercredi de l'année, donc à vous étudiants fidèles et disciplinés, à vous frères et sœurs appliqués dans la parole de Dieu, je vous salue et je vous souhaite une excellente année prospère dans le Seigneur, au fait prospère à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, selon la parole de Dieu, selon la richesse de la grâce de Dieu. Tous mes meilleurs voeux pour vous, pour vos familles, et que le plan de Dieu juste continue à se réaliser dans vos vies, et que vous ayez encore plus loin dans la réalisation de votre personne dans le Seigneur, dans son plan. Et dans le service auquel il vous a appelé et il vous a sauvé. Donc, à tous et à toutes, une merveilleuse année 2021. Nous sommes rendus à la 32e semaine. Dieu a été bon, Dieu a été fidèle et on sait qu'il va continuer à l'être tout au long de l'année. Malgré les circonstances, malgré les nouvelles, malgré les mesures, malgré les confinements, déconfinements, reconfinements. Et on a eu, il y a quelques heures, on a eu des annonces importantes de la part des autorités provinciales et des mesures qui auront un impact sur nous tous, sur notre quotidien, mais également sur le fonctionnement de l'Église. Et donc, dans les prochains jours, Pasteur Florent devrait s'adresser à la congrégation pour donner un peu les grandes lignes et les instructions sur comment est-ce que l'Église va opérer ou va servir pour les 4 prochaines semaines. Donc, on a annoncé un confinement total avec couvre-feu pour les 4 prochaines semaines. Et donc, ça implique beaucoup de changements, encore de l'adaptation, et même pour cette étude qui se donne en direct, et bien, étant donné le couvre-feu, il va falloir qu'on regarde aussi comment est-ce qu'on va s'y prendre. Mais une chose est sûre, c'est que l'intention de continuer avec l'étude est là, et on va tout faire pour pouvoir permettre que cela puisse continuer, puis que vous puissiez encore davantage bénéficier de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu, encore plus aujourd'hui. On croit que c'est important, que c'est bénéfique, que c'est vital même. La parole de Dieu procure la paix. La parole de Dieu est tellement puissante et riche. Elle est vivante, donc elle produit un effet en nous. Donne l'espérance, une espérance qui est vivante, nous donne une paix qui surpasse tout entendement, nous donne une assurance qui est ferme et nous donne également la lumière pour voir à travers tout ce brouillard qui est autour de nous. Donc, que Dieu nous aide, priez pour nous, priez pour les pasteurs, que nous puissions avoir accès aux bonnes informations, que tout ce qui sera fait puisse être communiqué clairement également. Et tout ça dans le but de continuer à aller de l'avant en tant qu'Église. Ce genre de confinement ou de reconfinement ne doit pas non plus nous brimer dans le service que nous devons porter envers le Seigneur, le service que nous devons faire envers l'Église et envers les bien-aimés. Encore là, comme on dit, on s'adapte. Et il y a certainement des opportunités de service dans la communauté, aux voisins. Et soyons attentifs, soyons d'un cœur comme le Seigneur pour pouvoir discerner ces opportunités et les saisir pour bénir quelqu'un qui va peut-être en avoir besoin durant les 4 prochaines semaines. On parle beaucoup de besoins au niveau de la santé émotionnelle, de la santé mentale, et certainement qu'il y aura des défis, là, non seulement dans la communauté, mais dans l'Église, dans le corps de Christ. Donc, ayons les yeux ouverts. Prenons le temps de communiquer les uns avec les autres, de prendre des nouvelles et de prier. Je pense que c'est par là que ça commence, de créer des opportunités de service. Alors, n'ayons pas peur, restons les yeux fixés sur le Seigneur. Il est le rocher. Il est notre assurance. Il est notre gloire, celui qui relève notre tête, celui qui est notre bouclier autour de nous. Il ne dort, il ne sommeille jamais. Il est l'ombre à notre main droite. Il va avec nous, il revient avec nous. Il est notre protecteur, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors quelle belle assurance nous avons aujourd'hui. Quelle belle assurance nous avons en Jésus-Christ. Et c'est une assurance que nous pouvons partager. C'est une confiance, c'est une paix que nous pouvons partager avec les gens autour de nous, chrétiens ou non. Jésus-Christ, encore plus aujourd'hui, représente la meilleure solution et la seule pour l'humanité. Alors, ne relâchons pas, mais continuons et essayons de voir comment est-ce qu'on peut continuer à servir le Seigneur. Donc, dans les prochains jours, le pasteur Florent va s'adresser à la congrégation avec des instructions sur comment est-ce que nous allons fonctionner pour les 4 prochaines semaines. Et nous allons également voir au niveau de l'étude du mercredi comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à vous servir. Et c'est une joie de pouvoir vous servir également depuis tant de semaines sur un sujet qui est très d'actualité et qui, on espère, va nous permettre de grandir et d'apprendre encore plus en Seigneur. Donc, allons dans Marc, au chapitre 8. Nous avions arrêté, dans le fond, à la semaine 30, dans Marc, chapitre 8, verset 34. La semaine dernière, j'avais fait une espèce de survol des 30 dernières semaines, où est-ce que j'avais ressorti, dans le fond, les points saillants, les points importants qu'on avait couvert durant ces 30 semaines. Et donc, aujourd'hui, on repart avec un nouveau thème, mais qui, dans le fond, continue à être en lien avec le service et avec ce qu'on est en train de voir depuis le début. Alors, nous allons prier, et par la suite, on va procéder à la lecture et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour ce soir. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, et ta fidélité. Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es inébranlable. Les cieux, la terre passeront, mais ta parole et ceux qui demeurent dans ta parole, ceux qui s'appuient sur ta parole, ceux qui appliquent, Seigneur, la parole dans leur vie, demeureront à jamais, Seigneur. Il y a cette assurance de protection, de conservation, Seigneur, de pérennité, de fraîcheur qu'il y a en toi, que rien ne peut venir corrompre. Et on te remercie, Seigneur, parce que ce soir, tu nous fortifies dans la foi. Ce soir, Seigneur, tu nous fortifies dans la confiance. Tu nous fortifies par ta parole dans l'espérance. Ce soir, Seigneur, tu calmes nos peurs, tu calmes nos doutes, tu chasses nos angoisses, tu lis nos anxiétés. Seigneur, ce soir, tu proclames la paix. Cette paix, Seigneur, qui est souveraine. Cette paix, Seigneur, qui surpasse tout raisonnement, tout entendement, Seigneur, toute explication, et qui gouverne nos cœurs et nos pensées. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu veilles sur tes enfants, même lorsque tes enfants sont au milieu, Seigneur, de la tempête. Tu veilles sur tes enfants, même lorsque les vagues, Seigneur, frappent la barque et que l'eau commence à remplir. Tu demeures fidèle et tu demeures si bon, Père. Conduis-nous ce soir dans ta parole, parle à nos cœurs. Ta parole est remède, Seigneur, pour notre âme, notre esprit et aussi notre corps. Et alors que nous sommes dans ta parole, que celle-ci fasse cet effet en nous, Seigneur, dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Pour la gloire de ton nom, dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le peuple dit. Amen. C'est bon, j'ai eu un gros amen. Merci Gilles. Donc, comment suivre le Seigneur ou comment suivre Jésus? On va aller dans Marc chapitre 8, versets 35 à 38. Et nous faisons la lecture. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est un passage qui est clé, comme bien des passages qu'on a lus dans Marc au chapitre 8, et qui a également été le sujet de beaucoup, d'innombrables, de multitudes d'études et d'explications, d'orientation, de commentaires. Il y a beaucoup de mystères aussi qui est rattaché à les paroles que Jésus a prononcées ici, y compris si on pourrait rajouter même ce qu'on retrouve dans Marc au chapitre 9, verset 1. Mais aujourd'hui, on va essayer d'amener une approche, un angle de vue qui est en lien avec le service et avec ce qu'on est en train de voir depuis le début, dans le fond. Et pour faire cela, on va juste faire un pas en arrière et revenir un petit peu sur qu'est-ce que le Seigneur est en train de montrer à travers les Écritures dans Marc au chapitre 8. On a vu que le message central, le thème central qu'on retrouve dans ce chapitre, c'est les types d'aveuglement. Le problème de l'être humain avec sa vision spirituelle qui s'est perdue à cause du péché, qui s'est perdue à cause de la chute d'Adam. Et que on n'y arrive pas à la retrouver, cette vision spirituelle, qu'à travers un processus que seul le Seigneur Jésus peut faire en nous. Et tout ce qu'on a vu dans le fond, dans le chapitre 8, a rapport avec les différentes choses que Jésus révèle, et donc les choses sur lesquelles le Seigneur ouvre les yeux de ses disciples, et nous ouvre les yeux également. Et on a vu que, dans le fond, dans Marc, au chapitre 8, Jésus est en train d'ouvrir les yeux de tout le monde sur l'essence du christianisme, sur les fondements de ce que c'est la foi chrétienne. Et ça commence avec la déclaration de qui il est, qu'il est le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça commence par Christ. Cette vision du christianisme ne peut pas commencer par une religion, par s'approcher à une religion, par s'approcher à des préceptes, par s'approcher à des activités. Non. Le christianisme commence par s'approcher à Christ et à reconnaître et à accepter, à croire qui est Jésus-Christ véritablement. Par la suite, dans cette même déclaration de Jésus-Christ, Jésus-Christ introduit l'Église, parle, révèle cette organisation, ce groupe de personnes qui vont représenter Christ sur terre et qui n'auront aucune limite, qui auront la capacité d'aller au-delà de la mort et que même le séjour des morts n'aura aucune puissance ni aucun effet sur elles. Donc, Jésus dévoile et ouvre nos yeux sur l'identité de l'Église et sur sa portée, sa destinée. Et dans Marc, au chapitre 8, verset 34, ce qu'on avait vu, c'est que Jésus également ouvre les yeux sur le disciple, sur la vie du disciple, lorsqu'il dit que si quelqu'un veut venir, si quelqu'un veut le suivre, on doit retrouver certains éléments, certaines décisions, certains engagements dans sa vie. Et encore là, Jésus met l'emphase sur quelque chose de particulier et ouvre les yeux de ses disciples et de nous tous sur ce qu'est la vie du disciple. Et le christianisme repose sur ça, repose principalement sur Christ, que c'est la pierre angulaire, c'est le fondement. Donc une communion avec Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, mais également avec l'Église, dans laquelle Dieu nous appelle à une vie de communauté avec les frères et avec les sœurs, et ce qu'on appelle le corps de Christ. Et finalement, Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à une vie de disciple, qui est dans le fond une vie d'obéissance et une vie de service. Et voilà donc le fondement du christianisme. Mais maintenant qu'on comprend que une vie chrétienne, la base est là, on fait quoi avec cette vie? On comprend que Jésus est le Seigneur, on comprend que l'Église, la vie de communauté, l'Assemblée est importante, elle est vitale pour la croissance. Et on comprend également l'engagement vis-à-vis Jésus-Christ et vis-à-vis l'Église que chaque croyant doit avoir, que ce n'est pas juste un engagement de sympathisant, c'est un engagement en tant que disciple, quelqu'un qui est engagé à suivre et à servir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là où est-ce que Jésus ouvre encore davantage les yeux de l'audience sur ce qui doit être fait. Et on le voit au verset 35 et 36, lorsqu'il dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra la vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Dans ce que vous voyez à l'écran, il y a quelques mots qui sont en jaune, dont le mot « vie ». Et ce qui est intéressant avec le mot « vie » et le mot « âme », c'est que dans le terme grec, c'est le même mot, c'est la même parole. Donc, ce qu'on retrouve ici pour « vie » et pour « âme », c'est le même mot, c'est « psuche » ou « spuke ». Et la première définition qu'on donne dans le grec, c'est le souffle de vie qui anime le corps. Donc, un corps vivant, la vie dans le corps, donc la vie terrestre. Mais ça veut également dire l'âme, et l'âme qui a une portée éternelle, l'âme qui a une destinée, qui est éternel, qui n'est pas juste temporel, qui n'est pas juste terrestre. Et ça, c'est particulier parce qu'un mot fait référence à la vie terrestre, mais fait également référence à la vie éternelle, la vie après cette vie terrestre. Et dans le fond, Jésus, ou la parole de Dieu, Dieu utilise cette double définition pour expliquer quelque chose, dans le fond, pour passer son message, pour envoyer une explication, une leçon. Et que tu as le choix de prioriser quelle vie, ta vie terrestre ou ta vie éternelle. En tant que disciple, tu as le choix de miser, de mettre tes efforts, de mettre la priorité sur une ou l'autre. Il y a évidemment une vie qui va ressortir plus que l'autre, une vie qui sera plus préparée, qui sera mieux entretenue, qui sera plus embellie, qui sera plus soutenue qu'une autre. Et là, nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, eh bien, on est devant ce choix-là de faire et de sélectionner qu'est-ce qu'on va faire de la vie que nous avons maintenant. Est-ce qu'on va prioriser une vie terrestre ou est-ce qu'on va avoir une portée beaucoup plus loin et avoir une vision de l'éternité? Encore là, Dieu nous ouvre les yeux. Dieu nous permet de voir et de constater que la portée de notre vision doit aller au-delà de notre vie terrestre. Nous devons penser à l'autre vie. Nous devons penser à la condition de notre âme lorsqu'elle va se retrouver dans l'éternité. Et à travers ce qu'il est en train d'enseigner, il est en train de mettre la base, dans le fond, sur ce qui doit être la priorité dans notre vie. Et sur l'importance des décisions que nous prenons maintenant. Et ça, c'est un défi pour nous. Parce que on pourrait facilement se concentrer sur tout ce qui est terrestre et se dire, quand l'éternité viendra, on traversera le pont, quand on sera rendu là. Et d'un autre côté aussi, il y a le danger de tout délaisser, d'être nonchalant, de ne rien prendre au sérieux dans cette vie terrestre, parce qu'on se dit de toute façon, on va passer l'éternité. C'est là où c'est l'importance. Là, t'sais. Et donc, on fait preuve d'irresponsabilité, on fait preuve de nonchalance, de paresse même, parce qu'on se dit la vie terrestre, elle vaut rien. La vie éternelle représente tout. Donc, je vais juste, moi, voir ma vision et focusser juste sur la vie éternelle et pas focusser sur la vie terrestre, sur ce qui doit être fait ici. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Et ces chrétiens-là, bien des fois, on a l'impression qu'ils sont super spirituels parce qu'ils sont déjà dans une autre dimension, là. Ils sont déjà dans l'éternité. Mais tu as des chrétiens aussi que pour eux, leur focus est que sur les besoins et la réalité et les limites de la vie terrestre, mais il n'y a aucune notion, il n'y a aucune conscience de la vie éternelle. Ils savent qu'il y a la vie éternelle, qu'il y a le salut, mais il n'y a aucun travail qui est fait, il n'y a aucune préparation, il n'y a rien qui est fait parce que tout est focusé et mis sur la vie ici sur terre. Et là, Jésus nous utilise dans le fond cette double définition-là pour nous envoyer ce message-ci. Et c'est le suivant. C'est que le disciple qui mise tout sur sa vie terrestre, ben, il court un danger, plusieurs dangers même, sur la condition de son âme. Condition qui est éternelle. Parce que l'âme ne meurt pas avec le corps. Quand le corps meurt, quand la vie terrestre arrive à sa fin, l'âme retourne à son Créateur. Et là, on attend, au fait, le jugement ou non. Tout dépendamment si cette âme a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il dit ici que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, c'est qu'il y a un grave risque, un grand risque pour un croyant de vivre une vie terrestre et de juste de s'attacher aux choses terrestres et de ne pas être conscient qu'il doit veiller sur son âme, qu'il doit faire attention à son âme, mais qu'il doit également penser à l'éternité et à comment il va vivre cette éternité-là. Ce que Jésus est en train de nous dire, dans le fond, ici, c'est que dans cette vie terrestre aujourd'hui, quelle est la priorité? En tant que chrétien, en tant que croyant, si tu te dis disciple, croyant de Jésus, quelle va être ta priorité? Est-ce que ta priorité va être tes besoins terrestres, les biens terrestres, la richesse, la commodité, le confort, que tu sois parfait, que tout soit en règle dans ce côté-là, et que les choses de Dieu vont passer en 5e, 6e, 7e, 10e, 15e place? Ou si en tant que croyant et disciple, tu comprends que la priorité dans ta vie, c'est Christ et c'est l'Évangile. Et donc, ce que tu vas vivre ici sur terre, ta vie terrestre, va porter cela, va refléter cette priorité-là. Et soyons clairs, notre vie va refléter les priorités que nous avons. On peut essayer de mettre ça beau avec des belles vertus, de christianiser ça en quelque sorte ou de le spiritualiser. Mais une chose est sûre, c'est que les fruits dans notre vie vont indiquer là où est-ce que nous avons mis la priorité. Vont être clairs, c'est ce qui va parler sur avons-nous misé sur notre bien-être terrestre uniquement, ou est-ce que nous avons pensé à l'éternité? Et là, Dieu est en train de dire, il y a un problème qui se présente lorsque le chrétien, le croyant, mise tout sur sa vie terrestre pour la sauver, pour la conserver, pour la rendre la meilleure possible, et quitte même à négliger l'Évangile, négliger Christ, et négliger le service, négliger l'obéissance à la parole de Dieu, au profit d'une vie terrestre qui est confortable et qui est commode. Là, il y a le danger. Là se trouve le piège pour beaucoup de gens. Ce qui doit être clair pour nous, c'est que Jésus-Christ et l'Évangile sont plus importants que toutes les priorités, les gloires de ce monde, les richesses, les biens terrestres. Pour le croyant, il faut que cela soit clair et il faut que cela soit notre vie. On doit le vivre. Ça doit être notre décision quotidienne. Et régulièrement, il faut y revenir pour faire un rafraîchissement de cet engagement que nous avons pris en tant que croyants, en tant que personne qui a accepté Jésus comme sauveur, mais également comme Seigneur. Parce qu'il a pris, il ou elle a pris l'engagement de suivre ses pas. Donc, en prenant cet engagement-là, c'est clair que notre vie terrestre ne sera pas la même que les gens du monde. Elle ne peut pas être la même. Elle sera différente. Notre parcours sera différent. On vivra peut-être des choses similaires, mais notre parcours sera différent. Et si on s'attend à, je prends par exemple un peu des gens de mon âge, parce que je suis jeune, de se marier, d'avoir la maison, d'avoir le bon travail, d'avoir une ou deux voitures, d'avoir un chien ou deux chats, d'aller dans le sud à chaque année, d'avoir un hobby à côté, je ne sais pas, moi, faire la moto, ou peu importe. T'sais, la vie classique, la vie standard que les magazines nous vendent. Si c'est ça qu'on aspire et que notre vie est juste focussée là-dessus, on va arriver avec quoi devant le Seigneur? Qu'est-ce qu'on va apporter au Seigneur? Sommes-nous utiles au royaume de Dieu avec ce type de vie ou ce style de vie? Aucunement. Aucunement. Et en vivant de cette façon-là aussi, on annule la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vont venir. Elles ne vont juste pas venir comme tu l'as vu dans le magazine. Et elles ne vont pas venir comme tu l'as vu dans l'émission de réalité. Elles vont venir, mais dans le temps et dans la volonté de Dieu. Mais une chose doit être claire, c'est que lorsqu'on décide de donner notre vie au Seigneur, notre parcours ne sera pas le même. Je ne peux pas regarder mon voisin ou mon ami qui ne connaît pas le Seigneur et me dire que ma vie sera la même que la sienne. C'est un mensonge, c'est se tromper à soi-même d'avoir ce genre de pensée-là. Donc, Jésus et l'Évangile sont et doivent être plus importantes à nos yeux que toutes les gloires de cette vie terrestre. Il y a un autre détail aussi que j'aimerais apporter, c'est le mot « monde » qui est également en jaune. Et il dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde ?» Et le terme « monde » ici, c'est cosmos en grec. Et il faut faire un lien avec un autre moment donné où le mot cosmos a été utilisé. Le mot cosmos qui veut dire, dans le fond, le monde, le système organisé. Et il y a un moment donné dans la vie de Jésus où il a entendu ce mot-là encore. Et c'était lorsqu'il était tenté dans le désert par le diable. Pendant 40 jours, et que le diable l'a amené en haut d'une montagne, d'un lieu élevé, et qu'il lui a montré toutes les richesses, tous les royaumes du cosmos, et toutes les gloires du cosmos. Et le diable lui a dit, « Je te donne tout ça, tu vas l'avoir, simplement si tu m'adores, si tu te prosternes, et que tu m'adores, tu auras toutes les gloires des royaumes et les richesses du cosmos. » Et là, Jésus dit, à quoi ça sert de gagner les richesses du cosmos et d'y perdre son âme? Jésus faisait un lien direct avec l'épreuve que lui-même avait vécue lors de la tentation. Jésus était en train de parler de sa propre expérience en tant qu'être humain. En disant, j'ai passé par là. Je sais de quoi je parle. Et si j'ai pris la bonne décision là-bas à ce moment-là, quand j'étais dans le désert, je maintiens cette décision-là encore aujourd'hui. Et ce que je vous annonce, c'est à quoi ça sert de gagner le cosmos et de perdre son âme, de perdre sa vie et sa condition, de sa condition qui est éternelle. Et une chose est sûre, c'est que un chrétien qui a les regards sur les richesses, sur les biens terrestres, a la priorité sur une vie terrestre qui soit sans problème, qui soit parfaite, à un moment donné va être tenté, comme Jésus a été tenté. Mais le problème, c'est que si son cœur est déjà compromis, si son âme est déjà compromis, il va juste s'en aller plus dans cet élan-là où Dieu ne sera plus son Dieu, mais son Dieu va être les richesses et les biens de ce cosmos. Et il va avoir une constante soif, une avidité de vouloir toujours plus, de vouloir toujours plus, et de ne jamais en avoir assez. C'est une réalité, c'est un piège, et chaque chrétien doit être conscient que qu'en s'en allant dans cette voie-là, il va avoir cette proposition-là qui lui sera présentée. Et il y a de fortes chances qu'il ou elle ne puisse pas résister, parce que le focus est sur les choses terrestres et non pas sur les choses éternelles. Et ça doit nous rappeler la recommandation que Paul a donnée aux Colossiens. Dans Colossiens chapitre 3, verset 2, lorsqu'il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Paul avait compris ça. Paul, qui avait un statut social important, Paul, qui avait tout pour être un homme riche, un homme nanti, un homme important dans plusieurs sociétés, pas juste dans la société juive, parce qu'il était romain aussi. Il avait tout pour être quelqu'un d'important, pour avoir aucun besoin, pour vivre dans le luxe, pour vivre bien. Et il disait cela, de s'affectionner aux choses du ciel, aux choses éternelles, de prioriser sur ces choses-là et non pas sur la terre. Qu'est-ce que cela doit nous dire également? C'est que le disciple, il doit être conscient qu'il met sa vie au profit du Seigneur et de l'Évangile. Et là encore une fois, Jésus ouvre les yeux sur cette réalité-là. On s'attend de quoi d'un disciple? Mais on s'attend qu'un disciple mette sa vie au service du Seigneur et de l'Évangile. C'est-à-dire qu'il ou elle comprend que c'est une vie de renonciation à soi-même. Il comprend que c'est une vie d'obéissance et de service. Il comprend que des sacrifices devront être faits. Des sacrifices où on pourrait prendre un temps juste pour un plaisir personnel, quelque chose qui est dans notre intérêt propre, mais on prend ce temps-là pour aider quelqu'un. On prend ce temps-là pour bénir quelqu'un. On prend ce temps-là pour le jeûne, pour la prière. Ça, c'est des sacrifices. Lorsque peut-être on doit sauter un repas, et je reviens à ma lasagne, on doit sauter une lasagne pour servir. On doit diminuer les heures de sommeil pour rendre un service. Pourquoi? Parce que notre vie a été mise au service du Seigneur et de la bonne nouvelle. C'est important qu'on comprenne cela. Parce que la vie de disciple, c'est pas de venir le dimanche. Ben là, vous pouvez pas venir, mais c'est pas une vie du dimanche. La vie du disciple, c'est pas une vie de quand l'église est ouverte et qu'il y a une activité dans l'église. C'est pas ça la vie de disciple. Si vous croyez que c'est ça être un disciple, vous êtes dans l'erreur. Et il faut corriger cette vision-là, que Dieu nous ouvre les yeux sur réellement c'est quoi la vie du disciple. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre sa vie au profit du Seigneur et de la bonne nouvelle? C'est pas de se connecter le dimanche matin à l'écran. C'est beaucoup plus que ça. C'est de mettre sa vie au profit du Seigneur et de l'Évangile. Ce qu'on doit réaliser et comprendre également, c'est que tout ce qui nous sera demandé, tout ce qui te sera demandé à toi, Jésus l'aura déjà fait. Jésus, c'est pas ce leader qui envoie ses soldats et bonne chance. Si ça marche, ça marche. Non, Jésus prend soin de ces gens et tout ce que toi et moi nous aurons à vivre, Jésus l'aura déjà vécu. Et parce qu'il l'aura déjà vécu, nous aurons l'espoir et l'assurance de la victoire et du résultat de notre côté. Ce qui est également important de savoir, c'est que tout ce qu'on perd, entre guillemets, tout ce qu'on perd à cause du Seigneur, on le retrouve. Tout ce qu'on met sur l'autel comme sacrifice pour honorer Dieu, pour adorer Dieu, pour faire la volonté de Dieu, Dieu nous le redonne à sa façon. Et normalement, lorsque Dieu le redonne, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur. Expérience parle. Et ce qui est beau là-dedans aussi, c'est que Jésus fait preuve d'une grande sincérité. Et ça, c'est une qualité numéro un dans n'importe quel leader. Jésus n'est pas en train de nous vendre une salade, là. Jésus n'est pas en train de nous peinturer ça beau, puis nous dire que ce sera une vie glorieuse, qu'on va expérimenter la gloire de Dieu, qu'on ne va jamais souffrir, qu'on ne va jamais avoir de difficultés, qu'on ne va jamais passer par des épreuves. Jésus n'a jamais promis cela. Jésus a promis des persécutions, Jésus a promis le rejet, Jésus a promis l'incompréhension. Jésus a promis même la mort. Et nombre de disciples, depuis le début, sont morts, ont souffert, ont été persécutés, mis en prison, ont perdu leurs droits, ont perdu leurs biens, ont été séparés de leur famille à cause de Jésus et de la bonne nouvelle. Jésus est sincère sur la réalité de cet engagement-là que nous prenons. Et on pourrait dire, ouais, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce que la vie du disciple doit être comme ça? C'est que tout ce qui est précieux coûte. Et Jésus a estimé notre vie d'une grande valeur. Et ça lui a coûté la croix. Et nous, si nous estimons le Seigneur et la bonne nouvelle comme la plus grande richesse et la plus grande gloire dans cette vie, eh bien, ça va nous coûter également. Ça va nous coûter de vivre une vie au service du Seigneur, de combattre, de passer par des défis, par des moments inconfortables, de sortir de notre zone de confort. Mais tout ça pour un but, pour que le royaume de Dieu soit prêché et pour que des vies, dans le fond, soient sauvées. Il y a une citation, très connue de Giuseppe Garibaldi. C'est un général italien et non pas un groupe de musique des années 90. Ceux qui savent... Ils comprennent. Bref. OK. Général est considéré comme l'un des pères de la patrie italienne. Qu'il a dit un jour à ses soldats, il a dit, je vous propose ni salaire, ni car, ni nourriture. Je vous offre seulement la faim, la soif, les marches forcées, bataille et mort. Que celui qui aime son pays avec son cœur et non pas seulement avec ses lèvres, suive-moi. Que celui qui aime son pays avec son cœur et non pas seulement avec ses lèvres, suive-moi. Que celui qui aime le Seigneur et le royaume de Dieu et l'Évangile avec son cœur et non pas avec ses lèvres, suivez Jésus. C'est une citation qui, je trouve, qui fait beaucoup un parallèle avec l'engagement. Mais un engagement qui est fait dans l'amour. Parce que Christ nous a aimés. Et Christ est mort pour nous. Alors, quelle doit être notre réponse? Notre réponse, ça doit être une réponse d'amour également envers lui, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et cet amour si grand qu'on veut que les autres aussi puissent y accéder, que les autres aussi puissent y être touchés, être transformés. Et on l'a vu également, que suivre Jésus, c'est une vie engagée, à être un imitateur de Christ, à garder ses commandements et à chercher premièrement le royaume. Donc, qu'est-ce que je dois faire ou comment suivre Jésus en tant que disciple? Voilà des éléments de réponse qui, je pense, doivent nous éclairer, doivent nous ouvrir les yeux aujourd'hui sur cette réalité-là que doit être notre vie et sur les fruits également que nous sommes appelés à apporter. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, nous avons vécu une vie plus axée sur les besoins et les intérêts terrestres? C'est possible. Et je vous dirais que même avec le contexte qu'on vit maintenant, où tout devient plus critique, tout devient plus incertain, eh bien, ce qu'on a, on essaye de s'y accrocher davantage ou de le conserver mieux. On fait attention. Mais n'oublions pas n'éloignons pas nos regards du Seigneur, qu'il est la source de vie, qu'il est notre tout. Et qu'il a dit que si on recherche le royaume de Dieu et sa justice, eh bien toutes ces choses seront données par-dessus. Le psalmiste a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et j'ai jamais vu le juste mendier son pain. Le Seigneur prend soin de ses enfants, et le Seigneur prend soin de ses disciples, de ses ouvriers, et de toute personne qui prend l'engagement avec son cœur de le suivre en tant que disciple. Mais ce n'est pas tout. Jésus continue à dévoiler des choses et à ouvrir les yeux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais au verset 38, il dit quelque chose. Il dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Jésus révèle ou dévoile la fin des temps. Et cette fin-là, elle est glorieuse pour tous ceux qui sont dans le Seigneur. Elle est précieuse pour tous ceux qui suivent le Seigneur. Et remarquez quelque chose. Tout ce qu'on a vu jusqu'à date dans le chapitre 8, c'est Jésus qui ouvre les yeux des disciples sur différents aspects le concernant. et par le fait même nous concernant. Et Jésus le fait avec toute confiance, avec toute assurance, en étant conscient que le contexte dans lequel Jésus se trouve est un contexte qui est tellement compliqué. Parce qu'il y a l'Empire romain qui est là. Avec toute sa puissance, avec toute son influence, avec toute sa corruption également. Où est-ce que les rois, les gouverneurs, ce ne sont pas des hommes justes, ce sont des tyrans. Il y a l'hostilité des Juifs religieux qui ne cesse de grandir. Et de plus en plus, on pense qu'il serait plus utile un Jésus mort. Et commence à réfléchir de comment le mettre à mort, comment le neutraliser. On voit toutes ces influences de culture, de religion, de philosophie, avec les Grecs, les Romains, avec les Égyptiens, avec les gens de l'Orient. Tous les peuples, toutes les pensées, les religions, c'est un pêle-mêle. Et dans toutes ces circonstances-là, Jésus ouvre nos yeux. Et Jésus fait ces déclarations-là, premièrement sur qui il est, sa véritable identité en tant que Messie, que le Fils du Dieu vivant, que la source de vie. Jésus va également dévoiler et parler de ses souffrances à venir. Il va parler de sa mise à mort. Il va parler de sa résurrection d'entre les morts. Et dans le verset 38, il parle et il dévoile son retour, sa venue en gloire et en puissance. Donc, au milieu de tout ce contexte, qui n'était pas un contexte facile pour personne, premièrement pour Jésus, voilà ce qu'il dévoile. Il ouvre les yeux des disciples sur lui. Voilà tout ce qu'il dévoile, tout ce qu'il révèle sur sa propre vie, en commençant par qui il est, en disant qu'il va souffrir, en annonçant qu'il va mourir. C'est là que Pierre lui dit, « Non, tu ne peux pas mourir, c'est impossible, tu as mal compris. » Et que Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Donc, il annonce sa mort, il annonce sa résurrection, et il annonce également son retour, triomphant, en gloire et en puissance. Et voilà ce qui est important aussi pour le disciple de comprendre. C'est que oui, dans la vie terrestre, il va avoir des difficultés. Oui, dans la vie terrestre, on ne va peut-être pas tout avoir ce qu'on aurait désiré. Oui, dans la vie terrestre, on va souffrir à cause de Christ. Il va avoir des épreuves. On va avoir un parcours différent de celui qui n'est pas dans le monde. Et peut-être qu'on va voir le méchant prospérer. Et nous, on ne va pas voir la même situation et on va devoir continuellement s'appuyer par la foi dans le Seigneur et espérer en lui. Mais il révèle la fin de toute chose. Et il révèle ce qui va se passer lorsque toute l'histoire, toute l'humanité va se retrouver dans l'éternité. Et quand Jésus va venir en gloire et en puissance pour le jugement. Et il est en train de dire, ça sera glorieux pour ceux qui vont être avec moi. Ça sera glorieux pour ceux qui seront de mon royaume. Ça sera glorieux, la récompense, la rémunération sera indescriptible, sera sans limite. Éternelle, glorieuse, majestueuse, pour tous ceux qui m'auront suivi, pour tous ceux qui auront vécu une vie terrestre en ayant la priorité ma personne et mon message. Et donc, Jésus veut attirer l'attention et veut ouvrir les yeux de ses disciples sur cette réalité-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste nous s'arrêter. Et le problème des fois dans l'Église, c'est qu'on parle des souffrances et on regarde des gens et on se dit, « Oh mon Dieu, moi je ne veux pas vivre sa vie. » Ou les ouvriers, tu vois comment les ouvriers souffrent. Mais c'est une vision tellement fermée, tellement étroite de ce que c'est la vie chrétienne, de ce que c'est la vie dans le Seigneur. Et Jésus veut s'assurer qu'on comprenne bien, à la base même où tout est en train d'être dévoilé par rapport au christianisme, que la fin, elle est glorieuse. Que ton destin en tant que disciple de Dieu est glorieux. Oui, il va y avoir des difficultés dans la vie terrestre, mais ce qui vient après est glorieux, est incomparable. Est incomparable. Jésus reviendra en gloire et en puissance, comme le roi des rois, comme le seigneur des seigneurs. Il jugera les nations, il y aura cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, tout sera renouvelé, et ceux qui l'auront suivi seront avec lui pour l'éternité. Ceux qui auront pris une décision ici, dans la vie terrestre, de vivre pour lui et de prendre part à ses souffrances, régneront avec lui lorsqu'il va revenir en gloire. C'est ses promesses. Et c'est ça qu'il faut avoir les yeux ouverts sur cette réalité-là. Beaucoup de gens, même des chrétiens, n'osent pas se compromettre davantage ou s'engager davantage dans le service au Seigneur parce qu'ils disent « ça va trop me coûter. Je vais souffrir, ça va être une vie de douleur, une vie de souffrance. Je vais être dans l'agonie tous les jours. Je vais être dans l'affliction, ça va être une vie d'affliction. » Ça, c'est une image. Et moi, je le sais, je vous le dis parce que je l'ai entendu. Et même moi, je me suis fait cette image-là lorsque je voyais les ouvriers, lorsque je voyais, par exemple, le pasteur Fontalvo. Je me disais, oh my God, c'est un homme qui fait juste souffrir, lui. C'est une vie de souffrance. Qui va vouloir servir Dieu pour souffrir comme ça? Mais c'est avoir une mauvaise vision des choses. Une mauvaise vision. Et le diable est très bon pour nous cacher ces choses-là. Et ça, en optant cette vision-là, mais on passe à côté de bien des choses, des opportunités pour servir, mais également de récompenses qui nous attendraient dans la gloire du Seigneur Jésus. Jésus nous ouvre les yeux sur la récompense. Et il serait peut-être temps que toi et moi, on regarde également la récompense qu'il y a dans Jésus. Bien souvent, on s'arrête sur l'identité de Jésus. Mais on ne prend pas part à ses souffrances, parce qu'on se dit, on ne veut pas une vie. On ne veut pas souffrir. Et on s'arrête là. Et notre marche avec Christ n'ira pas plus loin. Parce que nous avons décidé de juste s'arrêter à cette étape de la vision avec Jésus, de dire, bon, c'est le Seigneur, c'est Christ, gloire à Dieu. Et semaine après semaine, et jour après jour, Jésus-Christ est Seigneur, gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est ci, Dieu. Mais notre vie terrestre est une vie qu'on mène selon notre propre volonté, selon notre propre désir. Mais il n'y a pas de trouble. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Il est le Messie. Alléluia. Et donc, parce qu'on a un mauvais regard sur ses souffrances, on est complètement aveuglé et dans l'obscurité par rapport à la récompense et à la gloire qui vient avec Jésus. Et Jésus dit, ou plutôt Hébreux 12, 2 nous dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, en vue de la joie, en vue de la récompense, en vue de la gloire qu'il savait qui lui était réservée. Jésus savait des choses. Jésus avait une vision beaucoup plus élargie, avec une portée beaucoup plus loin, parce que Jésus était incapable de voir la joie qui lui était réservée de l'autre côté. Jésus était capable de voir la gloire. Et parce qu'il était capable de voir la récompense, il a accepté de souffrir pour nous tous et de mourir à la croix. Oui, c'est par amour qu'il est venu. Mais ici, la Bible nous révèle quelque chose d'autre. Nous révèle la vision de Jésus. Jésus regardait quelque chose. Il savait qu'en faisant ce qu'il faisait, en accomplissant son mandat, par amour, en prenant notre place et notre condamnation, nos péchés, en les portant sur lui-même, alors qu'il n'avait aucun besoin de le faire, mais qu'il le fait par amour, qu'il souffre dans cette vie terrestre jusqu'à la mort, pour toi et pour moi, il avait les yeux sur une récompense. Et cette récompense, c'est toi et moi qui sommes venus au Seigneur. Et c'est beaucoup plus que ça aussi. Ta récompense sera lorsque, à cause de tes efforts, de ton sacrifice, à cause de tes souffrances, une âme va venir au Seigneur. Mais ta récompense sera beaucoup plus que ça. Notre récompense, c'est lorsque nous aurons décidé de souffrir, de prendre part aux souffrances de Dieu, de renoncer à soi-même. De renoncer à soi-même, de renoncer à vivre une vie basée sur nos propres intérêts. De prendre le fardeau des autres. Et qu'à travers ce travail et ce service, des âmes viennent au Seigneur, nous aurons notre récompense. Mais notre récompense sera beaucoup plus que cela. Mais je veux attirer votre attention sur le fait que Jésus avait une joie en vue. C'est pour ça que je vous dis, la vision que nous on a par rapport au service et à la souffrance qui vient avec est tellement fausse, est tellement floue, est tellement déviée de la vérité qu'on n'est pas capable de voir la gloire, qu'on n'est pas capable de voir la joie qui nous est réservée. Et elle dit, la parole de Dieu dit qu'elle nous est réservée. Fait que pour toi, toi, il y a une joie qui t'est réservée. Il y a une bénédiction, ou je dirais, il y a un paquet de bénédictions et de joie et de gloire et de récompenses qui ont ton nom dessus. Ton nom est, et personne n'a le droit d'y toucher dans le ciel. C'est très bien conservé là-bas. Est-ce que tu vas voir ces récompenses, est-ce que tu vas les vivre ou non? Est-ce que je vais les vivre ou non? Ça va être une décision personnelle. Mais il y a des choses qui sont réservées dans le ciel, bien-aimé. Et ce qui va se passer va dépendre de comment est-ce que nous allons vivre notre vie en tant que disciples et en tant que serviteurs de Dieu, ici-bas, sur terre. Et je vais vous montrer que ce n'est pas juste, que c'est pas juste Jésus qui a eu cette vision-là. Moïse également l'a vu. Moïse, dans Hébreux chapitre 11, versets 25 et 26, « Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Mystère. Il y a quelques années, j'ai eu une profonde conversation avec un pasteur à Barcelone là-dessus. Et lui me posait la question, « Moïse, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que Moïse a vu? Qu'il l'a fait accepter de juste renoncer à l'Égypte et à la gloire de l'Égypte. Et aux richesses et aux jouissances de l'Égypte, et d'accepter de souffrir pour son peuple et avec son peuple, pour libérer le peuple de l'esclavage. Certainement que Moïse a vu dans la gloire de Dieu qui lui a été révélée. Certainement qu'il a vu des mystères concernant Christ et concernant sa souffrance et concernant également sa rémunération. Et Moïse a certainement compris qu'en servant le Seigneur de la façon comment Dieu l'appelait à servir, oui, il y aurait de la souffrance. Et Moïse, c'est quelqu'un qui ne l'a pas eu facile. Mais Moïse avait les yeux fixés sur une rémunération également qui lui était réservée. Il a vu la souffrance du Messie pour libérer son peuple. Mais il a également vu sa gloire. C'est impossible que dans ce que Moïse a vu comme gloire de Dieu à la montagne, il n'y avait pas Christ. Il n'y avait pas la révélation de Christ à un certain niveau, et de ses souffrances, et de sa gloire. Et c'est pour ça que Moïse est un peu à l'image, est un type de Jésus-Christ, parce que lui aussi a souffert pour libérer son peuple de l'esclavage. Mais je pense que Moïse avait une idée sur la récompense. Avait une idée sur la rémunération qui lui était réservée. Et je pense que l'apôtre Pierre aussi a compris cela parce qu'il l'écrit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 13, il dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ ou ici sur terre dans cette vie terrestre afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. » Il est important, bien-aimé, donc, d'avoir nos yeux grands ouverts sur Jésus, sur qui il est, sur la signification de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection, oui. Mais également sur l'importance de prendre part à ses souffrances. Et donc de vivre une vie de disciple. Et d'avoir également une vision sur la fin glorieuse qui nous attend. Et sur la rémunération qui nous est réservée. Moïse a vu des choses. Jésus a vu des choses. Et rien ne t'empêcherait, ou rien n'empêcherait le Seigneur de te montrer des choses sur ta récompense et ta rémunération. Mais comme j'ai dit, une âme qui vient au Seigneur est une grande récompense. Mais notre récompense est beaucoup plus grande que cela. En résumé, Jésus nous appelle à une ouverture. À une ouverture de nos yeux sur le véritable fondement du christianisme, qui repose sur une relation avec Jésus-Christ, qui repose sur une vie de communauté avec le corps de Christ, avec l'Église, et qui repose également sur une vie d'obéissance et de service. On a vu que le disciple, le vrai, qui mise tout sur sa vie terrestre et non sur la vie céleste, la vie éternelle, court de grands risques par rapport à la condition de son âme qui sera éternelle. On voit également que Jésus et l'Évangile sont plus importants que toutes les gloires de cette vie terrestre. Et il y a le danger de tomber dans la tentation. Dans la tentation de la proposition que le cosmos aura à nous offrir, le monde. Le disciple met sa vie au profit du Seigneur et de l'Évangile, et on voit que Jésus, dans le fond, dévoile une fin glorieuse, et qu'il va revenir dans son royaume en gloire et puissance, et également avec une rémunération pour tous ceux qui auront suivi, auront accepté de prendre part à ses souffrances. Ce qui nous amène, nous, à devoir peut-être reconsidérer notre perception du christianisme et de la vie en tant que disciple. Et que le Seigneur nous ouvre les yeux. Le Seigneur doit nous ouvrir les yeux en ce début d'année. Le Seigneur doit nous ouvrir les yeux sur la réalité du christianisme, de la vie chrétienne, de la vie au service de Christ. Et ça doit demander peut-être d'enlever le voile de la tradition, le voile de la religion. Ça va peut-être dire que Dieu doit travailler avec la dureté de notre cœur, certainement. Mais soyons disponibles et disposés entre les mains du Seigneur pour qu'il travaille nos vies et qu'il nous ouvre les yeux davantage. Père éternel, on te rend grâce, Seigneur, on te remercie pour cet enseignement, Seigneur, pour ta parole qui est riche, profonde, puissante, créatrice, Seigneur. Elle est source de vie, source d'autorité, Seigneur, pour nous. Te remercions, Seigneur, parce que tu nous aides à l'exposer, à l'enseigner, Seigneur, à l'expliquer et à l'amener, Seigneur, dans une approche qui est pratique, qui peut se vivre au quotidien. Merci Seigneur parce que ta parole est complète, Seigneur, et elle nous dirige, Seigneur, dans la bonne direction. Continue à nous ouvrir les yeux. Seigneur, si nous avons été hésitants ou réticents à prendre part, Seigneur, à tes souffrances, à s'engager, Seigneur, dans un service par crainte des répercussions, par crainte des sacrifices, pardonne-nous, Seigneur. Et ouvre nos yeux sur toute la réalité, Seigneur, de ce que c'est la vie en Christ. Depuis, Seigneur, ton identité jusqu'à la fin glorieuse qui est réservée, Seigneur, à tous tes enfants et à tous ceux qui sont avec toi, Seigneur. Que nous puissions être comme toi, être comme Moïse, être comme Paul, être comme Pierre, qui ont vu quelque chose dans l'avenir, qui ont vu quelque chose dans l'au-delà, une gloire, une récompense, une joie qui leur était réservée, Seigneur, qui faisait en sorte que les souffrances, pour le bien d'autres personnes, valaient la peine, Seigneur, ici sur terre. Que les efforts, que les sacrifices qui étaient demandés, Seigneur, pour la bénédiction et pour le salut d'une âme, d'une famille, d'une communauté, vaille la peine, Seigneur. Vaille la peine, Seigneur Jésus. Ouvre nos yeux. Enlève, Seigneur, les voiles de la religion. Enlève les voiles de la tradition qui nous mettent, Seigneur, dans un étau, qui nous mettent dans une boîte, Seigneur, et qui nous empêchent de vivre véritablement, Seigneur, la vie à laquelle tu nous as appelés. Travaille dans nos cœurs. Tu vois la dureté de nos cœurs. Tu vois la place que les jouissances du péché ont, Seigneur, dans nos cœurs. Brise nos cœurs, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur, que nous ayons un cœur pur, un cœur comme le tien. Que nous soyons en mesure, Seigneur, de voir au-delà des souffrances, de voir, Seigneur, Christ, le glorieux, le majestueux, dans toute sa gloire et sa splendeur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Bon début d'année. On redémarre ça. Dans quelques jours, dans les prochains jours, Pasteur Florent va se diriger à nous tous pour donner quelques indications sur le fonctionnement de l'Église, des activités de l'Église pour les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût et que le Seigneur vous ouvre les yeux davantage. Et shalom. Bonne soirée. Bye bye.